Faire, on va regarder un peu les principales dispositions qui s'appliquent aux différents programmes qui existent, publics, mais aussi privés. Puis on va les prendre successivement, évidemment. Bon, la PSV, on a vu ça dès le début de la session. On s'est dit que c'est un régime universel. On s'est dit on vise 15 % pour le travailleur à revenu moyen. Donc, c'est un petit peu l'idée de ça. Là, vous pouvez oublier le montant. Je vous le donne à titre d'information. Vous n'avez pas besoin de savoir ça. Les éléments plus intéressants à noter par rapport à la PSV, c'est la question de l'âge. OK? Première chose. Par rapport à l'âge, la première chose qu'on peut dire, c'est que, évidemment, dans plusieurs pays... Bien, évidemment, dans plusieurs pays, l'espérance de vie augmente, OK? Tendance à augmenter l'âge de retraite. Est-ce qu'on devrait augmenter l'âge de retraite? On pourrait en parler très longtemps. Puis en passant, je suis l'ICA, l'Institut canadien des actuaires, a décidé de mettre sur pied un groupe de travail parce que, comme corporation professionnelle des actuaires au Canada, l'ICA veut prendre position sur la question de l'âge de retraite. Puis, je fais partie de ce groupe-là, donc je suis susceptible de vous en reparler à un moment donné, là, si on termine nos travaux, puis on devrait le faire prochainement, là, je vous en reparlerai. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que du fait que les gens vivent plus vieux, du fait aussi, peut-être que les travailleurs âgés sont de plus en demande au niveau économique, là, on songe à hausser l'âge de retraite. Le point sur lequel, j'attire votre attention là-dessus, il avait été décidé par le gouvernement Harper de hausser l'âge de retraite de la PSV de 65 à 67 ans, puis ça sera appliqué graduellement en 2023-2029. Le gouvernement Trudeau a annulé cette disposition-là, qui avait été décidée, mais qui n'était pas encore effective, parce qu'évidemment, on se donne toujours une période de temps avant d'augmenter l'âge de retraite. Pourquoi il a fait ça? Pour deux raisons. L'impact sur les travailleurs à faible revenu, qui souvent ne sont pas en mesure de travailler au-delà de 65 ans, puis versus l'âge actuel de retraite, qui est plus autour de 62 ans. Donc, il disait, les gens arrêtent de travailler à 62, la pension est juste payable à 65. Il y a comme un manque à gagner là. Donc, pourquoi l'augmenter à 67 ans, alors que les gens ne travaillent plus jusqu'à 60, même pas jusqu'à 65? Puis ça, bien, en dépit de l'augmentation d'espérance de vie. Donc, la question de l'âge de retraite, là, c'est largement débattu. Il y a plusieurs pays qui ont opté pour des augmentations graduelles de l'âge de retraite. On n'ira pas dans le détail de ça, mais sachez que c'est un enjeu. L'autre élément qui est important du point de vue de l'âge, c'est la flexibilité. Okay? On n'est plus dans un monde où tout le monde arrête de travailler au même âge. Donc, de plus en plus, il y a de la flexibilité qui se doit d'être prévue. Puis pour la PSV, c'était de reporter ou d'offrir la possibilité que les gens puissent demander leur rente entre 65 et 70 ans. Puis évidemment qu'avec un facteur d'ajustement actuariel, on le verra pour le RRQ, qui fait en sorte que si tu demandes ta rente plus tard, bien, vu qu'elle est payable pendant moins longtemps, ça va être un montant plus élevé. OK? Donc, référence, on reviendra là-dessus, là, quand on parlera du RRQ. Ça va? L'autre élément qui est intéressant du point de vue de la PSV, c'est la question... C'est une pension universelle. On associe à ça une condition de résidence. OK? Si tu as grandi au Canada, tu as fait tes études au Canada, fini ton bac en actuariat, puis à 22 ans, tu dis, moi, je m'en vais travailler aux États-Unis, ou je m'en vais travailler, peu importe. Puis tu passes toute ta carrière ailleurs qu'au Canada. Puis tu reviens à 65 ans, puis tu dis, hey, je voudrais avoir la PSV. On va te dire, hey, Joe, as-tu résidé ici? De la même façon que tu décides d'immigrer au Canada alors que tu as 63 ans et 11 mois, puis 13 mois plus tard, tu dis, oups, je voudrais avoir la PSV. Bon, on dit, gars, c'est universel, là, mais c'est universel pour les gens qui ont vécu au Canada. Donc, sans aller dans le détail, c'est qu'on prévoit une pension partielle de 1/40e avec un minimum de 10 années de résidence. OK? Donc, 1/40e par année. Puis, minimum 10 ans, parce que pour ne pas payer des tout petits montants, là, entre autres. Là. Ce qui fait en sorte que tu auras la pension complète si tu as résidé au Canada pendant 40 ans. Troisième volet qui est intéressant, puis on va conclure la PSV là-dessus, c'est, on dit que c'est universel. Qu'est-ce qu'est-ce qu'on fait avec les revenus élevés? Dans le passé, pendant plusieurs années, on disait que c'est universel, c'est non seulement le principe d'universalité, c'est la pratique. On payait le même montant à tout le monde. Et là, il y a des gens qui commencent à se dire, bien, ça coûte cher, ça, puis ça donne pas grand-chose de payer 500$ par mois à quelqu'un qui a 1 million de revenus par année. Là, c'est comme dépenser de l'argent inutilement, tirer de l'argent par les fenêtres. Fait que depuis quelques années, on a une disposition de récupération. OK? L'idée, c'est qu'on va rechercher 15 % de l'excédent des revenus. En termes de remboursement de la PSV. OK? Pas besoin de connaître les montants, là, 75, 910, puis tout ça. Vous n'avez pas besoin de savoir ça. Là. Mais l'idée, pour les gens qui ont des revenus élevés, à un moment donné, on va chercher un pourcentage qui est relativement limité, là, une partie de la PSV. Puis si vous prenez 122 000, là, vous n'avez pas besoin de les retenir, mais si vous prenez 122 000, moins 75 000, multiplié par 0,15, ça va vous donner à peu près, je n'ai pas fait le test, mais le montant de la PSV. Donc, c'est universel, mais universel tronqué, si on veut. OK? Parce que on rejoint une proportion élevée dès 65 ans et plus, sans universalité complète. Donc, c'est encore perçu comme un régime qu'on dit universel, mais il y a quand même, pour les gens qui ont des revenus plus élevés, là, qui constituent évidemment une minorité des prestataires, un certain montant de récupération. Donc, on pourrait appeler ça, là, puis les gens les supérieurs, ça a un sens, là. L'universalité tronquée. On ne perd pas le sens parce que la grosse majorité des gens y ont droit, mais ce n'est pas tout le monde qui touche la totalité ou ce n'est pas tout le monde qui touche la PSV. Ça va pour ça? Assorti à la PSV, le régime de supplément de revenus garantis. Okay? Donc, ce qu'on a mis en place pour assurer des mécanismes anti-pauvreté à tout le monde, même des gens qui ne travaillent pas, c'est une pension universelle puis une composante de revenus garantis. Quand on avait juste une composante universelle, ça aurait coûté cher, puis on aurait payé un montant élevé à tout le monde. Si on avait vu juste du revenu garanti, un des effets, là, c'est que ça aurait désincité les gens à épargner en vue de la retraite, parce qu'ils disent, si j'épargne, puis j'ai mon propre revenu en retraite, tout ce que ça va faire, c'est que ça va baisser mon SRG. On est allé avec une combinaison qui minimise un peu les désavantages liés à chacun, tout en visant à assurer un revenu de base adéquat à tout le monde. Donc, le SRG, de son petit nom, c'est quoi? C'est un supplément à la pension de la sécurité de la vieillesse pour les personnes à revenus faibles. Ça va? Donc, vous avez les montants-là. Quand j'ai maximum de 873,23, vous n'avez pas à retenir le montant, c'est que si vous n'avez pas d'autres revenus que PSV, bien, vous aurez à ce moment-là le SRG maximum. Par contre, si vous avez d'autres revenus, ce qui est intéressant, c'est ça qu'il faut voir, c'est réduit de 1 $ de prestation pour 2 $ d'autres revenus. Donc, oubliez les montants, là. Mais sachez qu'on paye un maximum pour les gens qui n'ont pas d'autres revenus que la PSV, parce qu'avec la PSV, c'est ce qui constitue le plancher de protection pour tout le monde. OK? Si vous avez d'autres revenus, on réduit 50 %. L'autre élément qui est intéressant, c'est le petit tableau qui suit, puis ça se termine par 65,6. OK? La logique de ça, ça coûte moins cher de vivre en couple qu'individuel. Ça fait en sorte que pourcentage seul est plus grand que 50 % du pourcentage d'un couple. Ça va? Donc, ce qui est prévu, je veux dire, retenez pas les montants, là, ceux que je viens de mettre des X, Mais on voit que si vous êtes deux conjoints admissibles dans un couple, on paye à chacun, en supposant que vous n'avez pas d'autres revenus, 527 et 48, ce qui fait en sorte que si vous multipliez ça par deux, ben ça donne un peu plus que 876 qui est payé à la personne seule. Puis c'est ce qui fait en sorte que si vous ajoutez ça à la pension sécurité de la vieillesse qui est payable à chacun, ça porte le revenu minimum d'un couple au Canada à 2228,28. OK? Puis là, l'important, ce n'est pas le montant. Mais si vous comparez ça au minimum absolu qu'on garantit à une personne qui est célibataire, qui vit seule, ça nous donne plus que 50 %. Donc, on reconnaît, en termes de revenu minimum garanti, que deux personnes qui vivent ensemble, là, qui ont le même appartement, etc., etc., là, ça coûte moins cher que deux personnes qui vivent chacun de leur bord avec deux appartements distincts. Puis ce qui est intéressant aussi, ce 65,6 %-là, c'est à peu près égal aux 60 % de prestations de rente de survie qu'on a vu ensemble au tout début du cours. Là, quand on s'est dit, ben, quand je vous ai fait la cartographie, j'ai dit, ben, quand on parle de prestations suite à la mortalité, si on parle de rente de survivant, ben, en général, on va payer grosso modo autour de 60 % des revenus que la personne avait à la retraite. Vous avez la même logique ici. OK? Donc, on ne retient pas les montants. Ce qui est important de voir, c'est qu'on vient reconnaître que ça coûte plus cher de vivre seul que de vivre en couple. Autre élément, allocation conjoint, retenez que je vous l'ai dit, là, c'est que l'APSV et le SRG, c'est pour des personnes de 65 ans et plus. Il y a une problématique qui s'appliquait, puis s'applique encore dans certaines situations, mais qui est basée un petit peu sur un modèle traditionnel. C'est que traditionnellement, l'homme travaillait, la femme restait à la maison. Okay? L'homme était plus âgé que la femme. Donc, quand l'homme arrivait à 65 ans, il arrêtait de travailler. Il avait droit à PSV, SRG, mais sa femme, qui n'avait 62, 63, n'avait pas droit. Puis là, donc, il n'y avait plus de revenus de travail parce que c'était juste l'homme qui travaillait et il avait pris sa retraite. Mais il n'y avait pas droit au minimum absolu qu'on garantit à tout le monde à travers un couple via la PSV SRG parce qu'un des deux avait moins de 65 ans. Donc, on donnait à ces gens-là une plage de 5 ans qui faisait en sorte que même si le conjoint, plus souvent la conjointe, n'avait pas droit, on garantissait le même niveau de revenu que si les deux avaient été âgés de 65 ans. Ça va? Mais on n'ira pas dans le détail de ça, là. Bon, oui.
Est-ce que ça existe encore?
Oui, ça existe encore, bien que le monde a changé. OK? Ce qui est intéressant de voir en termes d'ordre de grandeur, vous avez un minimum, revenu minimum au Canada pour personne seule. C'est important de retenir ça. Évidemment, ça change, là. Mais si vous faites 3 ans d'actuariat, vous sortez sur la rue, quelqu'un vous demande, c'est quoi le minimum actuariat, les minimums absolus pour les personnes âgées au Canada, puis vous dites c'est 50 000 $, puis vous dites, tabarouette, c'est pas du sort. Mais... sachez que pour une personne seule, c'est 18 000. Pour les personnes en couple, perdez pas plutôt de vue qu'on garantit quelque chose d'un peu plus élevé, mais pas le double que ce qui est le cas pour une personne seule. Là. Donc, le chiffre qui est important ici, c'est le 18 000 pour des personnes seules. Supplément au SRG versé dans certaines provinces. Vous avez dans d'autres provinces une composante revenu minimum garantie qui s'ajoute à la pension fédérale du SRG. Ce n'est pas le cas au Québec. Donc, ça demeure relativement mineur parce que c'est pas tout, loin d'être toutes les provinces. Ce qui est intéressant de noter, vous avez le graphique à la page suivante. Puis, vous avez deux courbes, évidemment, qui se croisent parce qu'il y en a une qui est en augmentation puis une en diminution. Bien, on pourrait toujours dire que si on remonte par rapport à 1972, puis on se situe en 2008, le nombre de personnes qui touchent le SRG a augmenté de façon importante. Mais ce qui est surtout important de noter, c'est que le pourcentage 65 ans et plus qui touchent le SRG est en baisse. OK? Puis ça, en soi, c'est une bonne nouvelle. Parce que quand on a développé le système, on se disait, bien, ça, c'est une mesure anti-pauvreté, mais comme on met en place d'autres mécanismes, entre autres le régime de rente du Québec, le régime de pension du Canada, etc., etc., puis on favorise l'épargne retraite privée, on s'attend à ce que les personnes qui n'ont pas suffisamment de revenus de toutes ces sources-là, puis qui se doivent de compter sur le SRG devrait diminuer. Donc, on peut se dire que la baisse logique considérant RRQ, les REER et toute la patente. Mais on peut se dire aussi que encore aujourd'hui, près de 1 sur 2 des personnes âgées de 65 ans et plus touchent du SRG. OK? L'autre élément, puis je pense que j'ai pas mis de statistiques là-dessus, vous allez avoir plus d'informations dans le bouquin, là. Mais évidemment, ces gens-là, pas nécessairement, pour la majorité, c'est pas nécessairement le SRG maximal. C'est-à-dire qu'ils ont d'autres revenus de retraite, mais pas assez pour ne pas avoir droit au SRG. OK? Donc, on a un système qui a incité les gens à se préparer pour la retraite, qui les a forcés à cotiser pour la retraite à travers le RQ. Malgré ça, on a encore besoin aujourd'hui d'une mesure anti-pauvreté, d'un régime de base qui s'appelle le SRG. Ce pourcentage-là a baissé. Le montant qu'on paye, la proportion du SRG maximal qu'on paye a diminué. Mais les gens ont encore droit pour à peu près la moitié des personnes de 65 ans et plus au SRG. Ça va pour ça? Deuxième étage, c'est le régime de rente du Québec. Le régime de rente du Québec, on l'a vu d'entrée de jeu, c'est un régime qui ne vise pas tous les citoyens, tous les résidents, qui vise tous les travailleurs, toutes les travailleuses. Puis, c'est un régime pour lequel il y a une cotisation. OK? C'est important de savoir que le taux de cotisation au régime de rente du Québec, c'est autour de 10,8. C'est important à dire, c'est important, mais pour le deuxième examen, parce qu'on va se parler beaucoup plus de financement dans la deuxième partie du cours. Oui? Oui, OK. Ça ici, là. Tu sais, tu pourrais dire, on vit deux ensemble, puis on a 20 000 $ de revenus, peu importe le montant, là, on a 30 000 $ de revenus. OK? Puis à 30 000 $ on vit bien. Si un des deux décède, c'est un couple, si un des deux conjoints décède, pour maintenir le même niveau de vie qu'avant, il ne faut pas que la personne qui tombe seule tombe à 15 000. Parce que si elle était à 30 000 à deux, puis un des deux décède, l'autre tombe à 15 000 seul, son niveau de vie va baisser. Parce que, par exemple, il y a des dépenses fixes. OK, ton logement, ben, tu vas toujours prendre un appartement plus petit, là, mais ton appartement va représenter 8 copropres en deux, le prix de ton loyer copropres en deux, de telle sorte que, de façon générale, pour qu'une personne seule puisse avoir le même niveau de vie, là, la même qualité de vie en termes de dollars, là, qu'une personne qui vit à deux, qui vit en couple, faut qu'elle ait plus que 50 % du revenu du couple dans les mêmes conditions. Ça va-tu? OK? C'est ça. Y a-t-il d'autres questions par rapport à ça? C'est beau? Donc, si on revient au régime de rente, donc 10,8, c'est important, mais pas tout de suite, on y reviendra. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme dans tout régime public, il y a un maximum des gains admissibles. On appelle le MGA, là. Donc, un maximum assurable au-delà duquel on ne verse pas de cotisation, puis au-delà duquel on ne touchera pas de prestation. Parce que c'est un régime public qui veut assurer un revenu de base, donc il ne vise pas à prélever des cotisations sur la totalité du salaire de quelqu'un qui gagne 200 000 $ par année. Il veut juste assurer un revenu de base pour, je dirais, le citoyen moyen, donc on met un plafond. Ce qui est intéressant de noter, c'est que ça se veut une mesure de 100 % de la rémunération moyenne au Canada. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est plus grand que 50 000 $ actuellement, là. Entre 50 000 et 60 000, pas besoin de savoir que c'est 5 900, là. Sachez que c'est dans les ordres un peu plus élevés que 50 000 par an. Ce qui est intéressant de noter, ça c'est important, mais encore là, on va y revenir dans la deuxième partie du cours, il y a une cotisation patronale, cotisation salariale, puis cotisation du travailleur autonome. Le travailleur autonome, il paye le taux combiné, ce taux combiné-là étant 10,8. Ça va? Autre élément intéressant par rapport aux cotisations, c'est que, évidemment, le retraité qui travaille, OK? Donc, peut demander. Tu peux demander ta rente, peut demander sa rente et continuer à travailler. Puis ça, on va se parler de ça plus la semaine prochaine, pourquoi on en est rendu là. Non? Mais une personne peut demander sa rente puis continuer à travailler. À ce moment-là, bien, elle va continuer à verser des cotisations, puis on va recalculer sa rente année après année parce qu'elle cotise plus, donc elle touche plus. Mais l'idée de base, c'est que il y a des dispositions par rapport à l'âge de retraite, mais ça ne signifie pas que la personne doit arrêter de travailler une fois qu'elle a atteint l'âge de retraite pour pouvoir toucher sa prestation. Ça va? La rente de retraite, c'est quoi? Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est 25 % de la moyenne des gains admissibles. OK? Ces gains-là sont indexés jusqu'à la retraite. Ces gains-là sont indexés jusqu'à la retraite. Ça correspond d'une certaine façon à une moyenne des gains pendant toute la carrière. OK? Puis indexé jusqu'à la retraite, là, je vous dis tout de suite, selon l'évolution des salaires moyens. Puis ça, vous allez voir, vous n'avez pas besoin de tout retenir ça, mais avec par là, ce qui est important, c'est qu'on va regarder comment ça fonctionne. Mon petit chiffrier Excel, puis le petit tableau que vous avez dans les notes, là. Quand on va voir comment ça fonctionne, il faut que vous compreniez que sous-jacent à ça, c'est que c'est basé sur des gains indexés jusqu'à la retraite selon l'évolution du salaire moyen. Ça veut dire que moi, quand j'ai commencé à travailler là, dans les années 80, quand j'ai fini en actuariat, puis j'ai commencé à travailler chez ce qui s'appelle maintenant Morneau-Chapelle, je gagnais 25 000 $ par année. OK? Bien, 25 000 $ par année, j'ai augmenté de salaire parce que pour différentes raisons, on y viendra plus tard, là. De telle sorte que si on me disait, quand je vais arriver à la retraite puis je vais demander ma rente du RRQ, bien, il dit, Denis, tu vas avoir une rente de X dollars par mois parce qu'on a fait la moyenne. Puis souviens-toi que quand tu as commencé à travailler, tu gagnais 25 000, bien, ça me ferait grincer des dents un petit peu. Quand je leur disais, bien, 25 000, c'était dans les années 80, là, en 82, là, le coût de la vie était pas mal plus bas. Tu fais une moyenne, c'est quelque chose qui n'a plus rapport vraiment. Donc, ce qu'on veut, éviter que la rente soit trop faible dans la mesure où il y a des progressions de salaire. On veut refléter les progressions de salaire qui sont survenues au fil du temps. Pas mes progressions de salaire à moi, on va le voir, c'est pas un salaire final, mais si les salaires moyens ont augmenté, on prendra pas mon 25 000, on va prendre mon 25 000, on va l'indexer en fonction de l'évolution des salaires moyens jusqu'à la retraite, puis on va dire c'est ce montant-là ajouté à ce que tu as gagné dans toutes les années qui ont suivi, puis je vous dirai pas combien je gagne, puis on fait la moyenne de ça, puis c'est ça qui devient la rente de retraite. OK? Mais on va revenir sur ça. Vous allez voir, de par la mécanique de calcul des rentes, vous devriez comprendre la logique de ça. Ça va? L'autre élément qui est important par rapport au RRQ, c'est des retranchements. OK? Retranchement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut éviter de pénaliser. Pénaliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire déduire la rente payable pour des bonnes raisons qui sont mentionnées ici. Il y a trois raisons qu'on a reconnues dans le régime de rente, puis où on dit aux gens, bien, si tu es confronté à ça, on ne te pénalisera pas. Ta rente va être la même chose que si tu n'avais pas eu ça. OK? C'est pas nécessairement négatif, là. La première chose, c'est 15 % d'année de faible gain. Vous êtes un bel exemple de ça. Normalement, on commence à cotiser au régime de rente à 18 ans, selon les dispositions prévues, puis on cotise tant qu'on ne prend pas, tant qu'on ne demande pas sa rente. OK? Mais là, évidemment, vous allez aux études passer 18 ans. Fait que s'il n'y avait pas de disposition de retranchement, ça fera en sorte que plus on va aux études longtemps, plus on est d'une certaine façon pénalisé ou notre rente est réduite parce qu'il y a des années où on n'a pas eu des revenus aussi élevés que par la suite parce qu'on était à l'école. Donc, ce qu'on vient de dire, c'est que des gens peuvent être confrontés, volontairement ou involontairement, ça peut être des études comme ça peut être du chômage, à des années qui ont des faibles gains, puis on veut donc des revenus qui sont plus bas que ce qu'ils ont gagné pour la grosse majorité des années, puis on ne veut pas les pénaliser pour ça, parce que c'est un peu normal, à quelque part, dans sa vie adulte, d'avoir des années où on a des moins bons gains, puis on ne devrait pas pénaliser les gens pour ça. On peut en retrancher jusqu'à 15 %. On va voir la logique dans le calcul tout à l'heure. Autre chose, c'est qu'on a dit, ben, on voudrait reconnaître que des parents qui s'absentent temporairement du marché du travail parce qu'ils ont un enfant en bas âge choisissent de s'absenter temporairement pour prendre soin de leur enfant. On ne voudrait pas que leur rente soit réduite une fois qu'ils vont arriver à la retraite. Ce qu'on a fait, c'est que les années où une personne a charge d'un enfant 0-7 ans, donc avant qu'il soit sur qu'il soit à l'école, là, je dirais, ça ne réduira pas sa rente, même si pendant ces années-là, la personne s'est absentée du marché du travail. Puis le dernier volet, qui est peut-être le plus évident ou le plus nécessaire, là, c'est les années où la personne touche des prestations d'invalidité. Donc, moi, j'ai travaillé depuis plusieurs années. Si j'avais un accident, par exemple, qui me rendait incapable de travailler, bien, je toucherais des prestations d'invalidité. Puis, rendu à 65 ans, on arrêterait les prestations d'invalidité pour commencer la rente de retraite. Bon, on me dirait, Denis, on sait bien que tu n'as pas travaillé depuis que tu as eu ton accident à 57 ans. Tu ne seras donc pas pénalisé, même si tes gains de travail ont été à zéro en 57 et 64. Parce qu'on retranche ces années-là pour établir la moyenne des gains. OK? Ça va pour ça? Donc ça, la question du retranchement, là, quand même quelque chose d'important là, conceptuellement. Puis dans les faits, évidemment, ça a de l'impact sur les rentes qui sont payables aujourd'hui. L'âge de retraite maintenant. L'âge de retraite, c'est ce qu'on appelle l'âge de retraite normal, c'est 65 ans. OK? Avant 1984, âge pour tous. Donc, tout le monde, la rente devenait payable pour tout le monde à 65 ans. Il n'y avait pas de flexibilité. OK? Ce qu'on a introduit à partir de ce moment-là, c'est de la flexibilité dans l'âge qui fait en sorte que maintenant, on peut demander sa rente entre l'âge de 60 et de 70 ans. Mais la rente va être réduite si plus petit que 65 ans. Puis la rente va être augmentée si l'âge est plus grand que 65 ans. Et évidemment, à la base, c'est plus vous demandez votre rente jeune, plus vous êtes susceptible de la toucher pendant longtemps, parce qu'évidemment, à moins que ce soit pour des questions de santé. Donc, de ce fait-là, elle va être réduite. C'est ce qu'on appelle ici d'appliquer un facteur d'ajustement actuariel. Qui vise l'objectif de ça, neutralité de la valeur actuarielle des prestations. Donc, tu demandes ta rente plus tôt, elle va être payée pendant plus longtemps, on va la réduire, le montant va être réduit. Le montant qu'on te paye à tous les mois va être réduit parce que, justement, on veut te payer la même valeur, mais étalée sur une période plus longue. Ça va? Seul élément supplémentaire de ça ici, c'est de dire éviter de pénaliser indûment les faibles revenus. Normalement, l'ajustement, il aurait dû être de 6,72 pour tout le monde. On va appeler ça les faibles rentes. Normalement, l'ajustement aurait dû être de 6,72 pour tout le monde, mais on l'a limité à 6, puisqu'il s'appliquait avant, là, pour les gens qui ont des faibles rentes, pour éviter que des gens qui ont des faibles revenus aient une pénalité trop élevée. Sachant, puis là on peut élaborer beaucoup, c'est que souvent les gens qui ont des faibles revenus arrêtent de travailler plus tôt du fait qu'ils ont des problèmes de santé, etc., etc. Là. Donc on voulait éviter de les pénaliser trop. Ça va? L'autre élément dans ça, bien évidemment la flexibilité est importante. L'autre élément qui est important, c'est qu'on peut te parler de flexibilité dans l'âge de retraite. Versus la flexibilité dans la transition travail-retraite. Puis on va revenir sur ça, là. Ça s'appelle la retraite progressive. Autrement dit, avant 84, comme je vous l'ai indiqué, tout le monde avait droit à sa rente du RRQ à 65 ans. À partir de 84, on a dit ça n'a pas de bon sens que tout le monde ait droit à sa rente de retraite à 65 ans. C'est pas tout le monde qui cesse de travailler à 65 ans. Donc, à ce moment-là, on introduit la flexibilité dans l'âge de retraite. Possible en 70, mais il était toujours prévu et convenu que tu arrêtais de travailler quand tu demandais ta rente. Donc, tu travailles à temps plein jusqu'à 62 et 3 mois, c'est mon choix. Mais à 62 et 3 mois, tu arrêtes de travailler, tu touches ta rente, puis tu ne retournes jamais sur le marché du travail. Là, ça a évolué encore, puis on dit non, on n'est plus là. On n'est plus dans la question où la flexibilité est juste par rapport à l'âge de retraite. On est dans un monde où la flexibilité est par rapport à la transition travail-retraite. Donc, on est dans un contexte où les gens peuvent demander leur rente, mais continuer à travailler. Puis évidemment, quand on dit continuer à travailler... Bon, on recommence le même petit jeu. C'est assez incroyable. Ça fait deux fois que ça me fait ça dans ce cours-là. Mon ordinateur, il n'aime pas ça, les cours trop longs. Il jamme à un moment donné. Bon, excusez-les, mais il va falloir qu'on aille juste verbalement. On finit toujours nos cours de la même façon. C'est un peu chiant, là, mais c'est comme ça. Donc, avant ça, les gens pouvaient demander leur retraite à l'âge qui leur convenait, 60-70, mais ils arrêtaient de travailler quand ils demandaient leur rente. Ici, ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, puis c'est en croissance importante, là, les gens demandent leur rente puis continuent de travailler. Puis ce que je voulais indiquer sur l'acétate, c'est que continuent de travailler à temps partiel en général. Donc, travaille 5 jours, il arrive à 62 ans, j'ai plus le goût, je suis écœuré, je suis plus capable de travailler 5 jours, je vais réduire mon temps de travail à 3 jours, je vais avoir une baisse de revenus, puis je vais demander ma rente en compensation. OK? Donc, on voit, c'est qu'il y a une proportion importante des gens qui demandent leur rente puis continuent à travailler. Le résultat de tout ça, ce que vous avez au bas de la page 8, c'est qu'évidemment, l'âge a diminué beaucoup à partir du moment où on a introduit la flexibilité, là. Puis ça peut, il y a des qui font en sorte qu'il y a des périodes de transition, là. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'à partir du début des années 80, c'est-à-dire à 65 ans, ça a diminué de façon importante jusqu'autour de 62 ans, puis c'est stable depuis ce temps-là. Mais on le verra tout à l'heure, ou on le verra la semaine prochaine, c'est que l'âge auquel les gens arrêtent de travailler, lui, est en augmentation. Donc, les gens, ils travaillent de plus en plus tard, mais continuent de demander leur rente à 62 ans parce que, justement, ils cumulent le paiement de la rente avec le fait de continuer à travailler, donc de la retraite progressive. Ça va pour ça? On va revenir sur ces questions-là d'âge de retraite pour vous préciser un petit peu c'est quoi les concepts importants derrière de ça, là. Mais à ce moment-ci, l'idée, c'était plus de vous parler des conditions puis de l'expérience vécue en regard du régime de rente. Ça va-tu pour ça? Y a-t-il des questions par rapport à ça? C'est beau? Lâchez pas, on achève. Troisième volet, on a vu donc les régimes, la pension fédérale, PSV, SRG. On a vu le RRQ. Le troisième étage, il y a deux composantes, les régimes d'employeur puis l'épargne individuelle. On va les voir successivement. Les régimes d'employeur, ce qu'on appelle des régimes complémentaires de retraite. À ce niveau-là, il y a deux types de régimes complémentaires de retraite. C'est quand même important. Le premier, c'est ce qu'on appelle les régimes à prestations déterminées. OK? Puis le deuxième, ben, c'est la contrepartie de ça, c'est les régimes à cotisation déterminée. Un régime à prestations déterminées, c'est quoi? C'est un régime qui vous garantit un certain niveau de prestation. Donc, ce que vous avez, quand vous regardez sous l'entête prestations déterminées, vous allez voir dans prestations, c'est marqué fixe. C'est-à-dire que le régime vous garantit un certain niveau de prestation. Par exemple, j'ai un régime qui dit que tu vas avoir droit à 2 % de ton salaire, on verra comment le salaire est établi, pour chacune de tes années de service. Okay? Ce qui fait en sorte, c'est ça l'idée à la barre, c'est que si tu travailles pendant 35 ans, après 35 ans, tu auras droit à une rente qui correspond à 70 % de ton salaire, qui correspond à l'objectif qu'on s'est donné. OK? Donc, c'est de même que ça a été bâti. Sauf que là, whoop, on s'est dit, c'est beau 70%, mais quand on a bâti, quand on a fixé l'objectif de 70%, c'était non seulement pour les régimes privés, pour le régime complémentaire, mais aussi intégrant le régime public, notamment le RRQ, là, qui se veut aussi un objectif de remplacement de revenus, donc de garantir un certain pourcentage du salaire une fois que la personne est à la retraite. Donc, vous allez voir, on va voir un exemple tout à l'heure. Vous avez un exemple type d'un régime à prestations déterminées qui va dire que c'est 2 % par année de service coordonné au RRQ. Coordonné, ça veut dire qu'on va réduire la rente de 0,7 % du salaire pour tenir compte du RRQ. Donc, ça ne sera plus 2, ça va être 1,3. Puis pourquoi 0,7? Parce que si vous utilisez le 0,7 par 35 ans, ça va vous donner le 25 % applicable au régime de rente. OK? Donc, 2 % fois 35 égale 70. 0,7 fois 35 égale 25. Donc, le régime paye le complément au régime de rente pour porter le niveau de revenu de la personne à 70 %. Ça, c'est un régime à prestation déterminée. À l'inverse, donc, l'engagement, il est en termes de montant de rente. À l'inverse, un régime à cotisation déterminée, bien, c'est simplement un régime d'épargne. Donc, l'employeur dit, moi, je suis prêt à mettre en place un régime, mais je ne veux pas garantir une prestation parce que ça fait courir certains risques financiers de faire ça. Donc, ce que je m'engage à faire, c'est juste de verser une cotisation fixe, par exemple 5 % du salaire, dans un compte. Puis, je demande aux employés de verser aussi 5 % de leur salaire dans le compte. Ce qui fait en sorte que pour chaque individu, à chaque année, c'est l'équivalent de 10 % du salaire qui est versé dans un compte d'épargne, qu'on investit selon différentes façons, puis qui s'accumule en fonction des rendements. Et le montant que ça donne à la retraite, c'est un beau capital, tu prends ça, tu achètes une rente. La rente, elle va-tu correspondre à 30 %, 50 %, 70 %, 90 %? Ça dépend évidemment du fait que tu as cotisé 10, que tu as cotisé 8, que tu as cotisé 15. Ça dépend aussi beaucoup, 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 beaucoup des rendements que tu as générés sur ces cotisations-là.
Oui, mais quand on a un des deux, ça fait ça qu'on ne peut pas non plus épargner, par exemple, dans un régime d'épargne individuelle?
On va y venir. C'est l'idée que je vous ai demandé, on a augmenté les plafonds prévus pour les REER. Puis on a introduit en même temps l'idée d'équivalence, c'est que ce que tu cotises à un RCR, peu importe qu'il soit à prestation déterminée ou à cotisation déterminée, ça vient réduire ce que tu peux cotiser à un REER, mais possiblement que ça va te laisser de l'espace dans un REER si ton régime complémentaire n'est pas très généreux. OK? Donc, on reviendra là-dessus, là, mais on ne va pas très dans le détail là, pour ne pas aller trop dans des aspects pointus, mais il y a un principe d'équivalence qui fait en sorte qu'on vient soustraire du montant que tu peux cotiser un REER, ce que tu cotises déjà dans un RCR. Mais il peut rester de l'espace disponible. Ça va? Donc, dans le cas d'un régime à cotisation déterminée, on a vu ce qui était fixe, c'était la cotisation. Puis à l'inverse, bien, ça ne garantit pas un niveau de prestation. Parce que tu accumules un montant, tu arrives à la retraite, tu achètes une rente. Tu as eu des bons rendements, tu vas être content. Tu as eu des moins bons rendements, tu ne seras pas content. À ce moment-là, donc, la prestation est variable. À l'inverse, dans un régime à prestation déterminée, la prestation est garantie, c'est la cotisation qui est variable. Pour ça, bien, il y a des évaluations actuarielles qui sont faites périodiquement de la situation financière de ces régimes-là. Puis l'actuaire dit à l'employeur ou aux employés qui se partagent les cotisations, bien, pour les 3 prochaines années, il va falloir augmenter les cotisations parce que le rendement n'a pas été assez élevé puis on n'a pas assez d'argent dans la caisse pour garantir les prestations. Donc, la cotisation varie parce qu'on garantit une prestation qui est fixe. Ça va? Oui.
Dans les entreprises ou les municipalités, où est-ce qu'il y a un régime de l'employeur qui est vraiment généreux, dans le fond, ça peut correspondre quand même plus à 18 % qui est le droit de cotisation?
Ouais, on va y venir, le 18 % Ça, le 18 % c'est le maximum que tu peux normalement cotiser un REER. OK? Puis comme on vient de dire, si tu cotises un RCR, on va réduire le montant qui correspond à 18 %. Puis à la limite, c'est un très bon régime, ça va prendre pratiquement tout l'espace. En général, ils te laissent toujours, ils te mettent un petit montant, ça permet aux gens de prendre un petit peu. Mais le montant que tu vas cotiser un RCR, ça peut être à la fois les travailleurs puis l'employeur, ça va bouffer la quasi-totalité de l'espace de 18 %. Puis tu as raison de parler des régimes des municipalités, là. Ce sont des très bons régimes en général, notamment les municipalités d'une bonne taille, là. Puis les employés qui travaillent dans des municipalités puis qui sont visés par ces régimes-là, bien, ils ont des bonnes conditions de retraite du point de vue du régime à prestations déterminées, mais ils peuvent mettre beaucoup moins d'argent dans un REER, justement parce qu'ils ont un bon régime à prestations déterminées. Ça va-tu? Ça va pour ça? Donc, à la base, ce qui distingue le régime à prestation déterminée puis le régime à cotisation déterminée, c'est de savoir qu'est-ce qui est fixe puis qu'est-ce qui ne l'est pas. OK? Donc, le risque associé à un régime à prestation déterminée, c'est le financement, parce que tu garantis un montant à retraite. Donc, il faut que tu t'assures de mettre suffisamment d'argent dans la caisse. Puis c'est pour ça, évidemment, qu'il y a beaucoup d'actuaires qui travaillent là-dessus pour assurer un financement ordonné de ces régimes-là au fil du temps. Dans le cas d'un régime à cotisation déterminée, c'est juste l'épargne. Fait que le risque, c'est que ta prestation ne soit pas aussi élevée que tu aurais aimé parce que tu n'as pas eu des bons rendements. Mais c'est toi qui es à risque, parce qu'on dit juste, l'employeur dit juste, là, moi, je ne prends pas de risque dans ce régime-là. Je mets en place le régime, je pense que c'est une bonne affaire pour toi. Je mets mon 5 % mets ton 5 % puis c'est end of the story. On s'en parle. Tu t'arrangeras avec ce que ça va donner quand tu vas arriver à la retraite. Ça va? L'âge de retraite, bien évidemment, dans un régime à prestations déterminées, on te garantit des prestations. On te garantit un montant de prestations. Il faut aussi te garantir à quelles conditions on va te payer ces prestations-là. OK? Dans le cas d'un régime à cotisation déterminée, bien bof, tu prends le montant accumulé puis tu t'achètes une rente. Libre à toi de partir à 60, 65, 70. Évidemment que si tu prends si tu achètes une rente à 60 ans, ça coûte plus cher une rente à 60 ans qu'une rente à 70 ans parce qu'elle va être payable pendant plus longtemps. Donc, de facto, un régime à cotisation déterminée, il y a un ajustement actuariel qui fait en sorte que plus tu te retires tôt, plus ta rente que tu vas avoir va être faible. Puis par ricochet, bien, moins tu as besoin de mettre des règles strictes qui encadrent le moment où tu vas prendre ta retraite. Dernier volet sur lequel je vais attirer votre attention par rapport à ça, c'est les modalités de paiement. Un régime à prestations déterminées, c'est les mêmes conditions, les mêmes dispositions pour tout le monde, puis on crée des caisses de retraite avec ça. Un gros fonds, c'est géré par des professionnels, puis les prestations qui sont payables de ces régimes-là sont payées à même cette caisse-là. OK? Un régime à cotisation déterminée, vous pouvez avoir dans une même entreprise le même régime pour tous les employés. OK? Tout le monde paye 5 % puis l'employeur met 5 % pour tout le monde, sauf que tout le monde a son compte individuel aussi. OK? Puis règle générale, dans le passé, la loi vient de changer, c'est un peu moins vrai, mais dans le passé, quand tu arrivais à la retraite, tu t'achetais une rente avec ça ou tu transférais ça dans ce qu'on appelait un fonds de revenus viager qui te permettait des retraits progressifs. Là, je ne peux pas écrire, là. Des retraits progressifs à même ce fonds-là pour te procurer un revenu annuel. Mais si tu en retires un peu trop et tu vis un peu trop vieux, tu risques de manquer d'argent. Puis si tu décèdes prématurément, bien, tu vas laisser un gros héritage. Donc, c'est juste une façon d'encaisser des montants cumulés de façon périodique, là, sans que ça soit lié directement à la survie de la personne. La seule chose, c'est qu'on met un maximum au montant que tu peux retirer pour éviter que tu encaisses tout d'un coup, puis tu te ramasses sans le sou après, puis tu deviennes prestataire du SRG. OK? Mais sachez là, que c'est juste un fonds d'épargne que tu accumules pendant ta vie active. Quand tu arrives à la retraite, tu t'achètes une rente, puis là, tu es full assuré, c'est l'assureur qui te paye ça jusqu'à temps que tu décèdes. Sinon, tu dis non, moi, je veux continuer de gérer ça comme de l'épargne, mais dans un contexte de désépargne, je vais retirer périodiquement. Le législateur te dit, tu as le droit de faire ça, je te dis juste que tu ne peux pas retirer plus que 6 % de ton montant par année. OK? Mais si tu vis vieux, arrange-toi avec ça. Puis si tu vis jeune, si tu décèdes jeune, tant mieux pour tes héritiers. Donc, cotisation déterminée épargne, prestation déterminée, beaucoup plus d'assurance liée à ça, liée aussi bien à la survie qu'à la détermination du montant. Ça, c'est pour les gens. Puis on va revenir sur des exemples de ça la semaine prochaine. Juste pour terminer aujourd'hui, les gens qui n'ont pas droit à des RCR ou les gens qui n'ont pas un RCR très généreux, ils peuvent aussi cotiser à titre individuel. OK? Puis il y a deux grands véhicules dans lesquels on peut cotiser. C'est le CELI puis c'est le REER. Vous avez sûrement vu ça si vous avez fait le cours avec Isabelle. Ça donne droit à certains avantages fiscaux. Dans le cas du REER, c'est que quand vous cotisez, vous avez une déduction d'impôt, vous payez moins d'impôts. Les revenus de placement ne sont pas imposés. Par contre, quand vous touchez la prestation, ça devient imposé. Le CELI, aucune déduction quand vous cotisez. Les revenus de placement ne sont pas imposés. Les prestations non plus ne sont pas imposées. Donc, fiscalement, c'est très intéressant. On va terminer là-dessus. Je vous inviterai à regarder dans ce tableau-là. Puis s'il y a des questions, on y reviendra. Les caractéristiques du REER et du CELI qui ont trait à l'âge limite, montant de la cotisation déductible, retrait, revenu de placement, droit de cotisation inutilisé. Donc, les deux, quatre, six premiers, plus le huitième. OK? L'incidence des retraits sur les programmes sociaux. Regardez ça, puis on reprend ça là la semaine prochaine, puis on va compléter ce qui a trait à la retraite la semaine prochaine, puis on va enchaîner avec la mortalité. Merci. L'organisation, c'est pas aller. Par contre, ce qui est avant, les soins et services, c'est aller.
Est-ce
qu'ici, il y a une organisation? Non, c'est pas super important. Parce que quand tu arrives, ça parle d'organisation, c'est pas aller. Ça, c'est pas aller. On commence. Les soins, ah, ça, c'est aller. Par contre, discutant, l'organisation, c'est pas aller.
Non, l'organisation.
Non,
ça ne vaut pas des examens
professionnels. Oui, OK. Oui, attends un petit peu, je vais juste arrêter ça.